Bonjour à tous, bienvenue sur Cité Radio. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e édition des Assises internationales du journalisme qui porte sur l'urgence climatique. Alors, une question nous est posée. Face à cette urgence, que font les journalistes et les médias? Aujourd'hui, je suis avec Catherine Simon. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oh, ben bien sûr, oui. Je suis journaliste à La Nouvelle République, à la rédaction de Blois, dans le Loir-et-Cher, depuis plusieurs années. Et puis voilà, je m'intéresse beaucoup aux questions d'environnement. C'est une des rubriques que je suis pour le journal.
Alors, on croit savoir justement que vous avez particulièrement un projet qui concerne ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors en fait, oui, on a créé il y a, ça fera un an pile au mois d'avril, un petit projet qui s'appelle Foutu Planète. Et en fait, il s'agit d'un groupe Facebook de discussion et d'information sur les questions environnementales que j'ai lancé avec quatre collègues dans les quatre autres départements de diffusion de La Nouvelle République.
Et combien y a-t-il de personnes sur ce groupe?
Alors aujourd'hui, très exactement, il y en a 1705.
D'accord, donc ça commence vraiment à devenir intéressant.
Oui, tout à fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est les contenus qui nous sont proposés. On n'avait de toute façon pas l'ambition numérique, c'est-à-dire qu'on préfère effectivement prendre notre temps et que cette croissance se fasse tranquillement, mais que les contenus soient intéressants, et on est vraiment ravis parce que c'est le cas.
Est-ce que tout le monde peut poster sur ce groupe ou c'est uniquement les administrateurs?
Ah pardon, à condition d'être membre, donc d'avoir répondu à deux petites questions. Qui sont juste pour éviter les robots, en fait. Hein.
D'accord.
À condition d'être membre, n'importe qui peut poster. Mais toutefois, évidemment, nous modérons toutes les contributions avant de les mettre en ligne.
Très bien. Maintenant, je vais poser des questions en tant que vous, journaliste. Pensez-vous que les médias ont un rôle à jouer dans les changements d'habitude des personnes pour l'écologie, pour le changement climatique?
Oui, c'est fondamental, bien sûr. Bien sûr que les médias ont un rôle à jouer. Les médias ont, enfin, notre rôle, c'est un rôle d'information. Quand on creuse l'information sur l'environnement, le changement climatique, etc., forcément, on amène des éléments qui doivent permettre aux gens de prendre conscience des changements qui vont arriver et puis de s'interroger sur des changements de pratiques, etc., etc., pour essayer de limiter la casse, j'ai envie de dire.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur aussi important que la politique ou l'économie, par exemple?
Je pense même que c'est plus important.
D'accord, complètement.
Parce que ça... Ah oui, parce que ça touche le quotidien des gens. Je crois que tout le monde n'a pas encore compris ça. Eh bien, il me semble que finalement, les gens, peut-être la société civile, comme on dit, l'a peut-être déjà un peu mieux perçu que les politiques, par exemple, ou les chefs d'entreprise, ou les banquiers. Mais les gens sont impactés dans leur quotidien. Et le seront de plus en plus. Donc oui, ça me semble vraiment primordial.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que les médias ont tendance à un peu minimiser les faits pour en fait ne pas créer le sentiment de panique chez les personnes? Parce que de plus en plus, il y a des catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, on le voit de plus en plus à la télé. Mais est-ce que vous pensez qu'on minimise les faits pour ne pas faire paniquer la population?
Non, je crois pas, non.
Non, on dit les informations telles quelles?
Non, je crois pas. Après, les informations, elles sont partielles. Tout dépend où est-ce que vous prenez vos informations. Si c'est dans le journal de 20 heures, vous aurez une vision très partielle des choses. Mm-hmm. Mais les gens qui commencent à s'intéresser d'un peu plus près à toutes ces questions ont à leur disposition de multiples sources d'informations tout de même qui leur permettent de se faire une idée quand même vraiment précise de ce qui se passe. Et les médias, en particulier les médias sur Internet, les groupes de discussion comme le nôtre, mais il y a les pages, etc. Il y a beaucoup d'initiatives, hein, beaucoup de choses qui permettent d'avoir de l'information.
Et vous pensez qu'on devrait, entre gros guillemets, rejeter la faute sur qui? Qui doit lancer en premier? Est-ce que c'est nous individuellement qu'on devrait changer nos habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi les entreprises? Est-ce que ce ne serait pas... Ce ne serait pas mieux de politiser la question? Je ne sais pas.
Alors d'abord, je pense qu'effectivement, la question est politique. Il me semble qu'elle l'est déjà beaucoup. Par exemple, on est là juste à la veille d'élections municipales. On peut dire que les questions environnementales sont au cœur de pratiquement toute campagne électorale. Donc les gens ont bien compris ça, que les actions sont individuelles, mais les actions sont collectives Et les impulsions, etc., doivent aussi venir évidemment des politiques.
Très bien. Et est-ce que vous pensez que on doit, entre guillemets, sensibiliser les différents publics différemment? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les jeunes sont beaucoup plus pour l'écologie et, par exemple, les anciens seraient un petit peu plus réfractaires?
Alors en fait, c'est à mesurer ça, c'est à moduler plutôt, parce que effectivement, on peut penser que les générations, celles qui ont vécu les 30 Glorieuses, les générations les plus anciennes, qui ont aujourd'hui, voilà, qui sont à la retraite aujourd'hui pour la plupart, et qui ont vécu toute cette période de consommation, etc., mais aussi de confort et d'augmentation aussi de la durée de la vie, etc., sont un petit peu moins sensibles. Mais ils ont des petits-enfants et ils voient bien, ils s'inquiètent aussi quand même pour l'avenir, pour leurs petits-enfants. Et quant aux jeunes, à l'inverse, il y a quand même des choses contradictoires. On a des jeunes qui sont très mobilisés, il y a des marches pour le climat, etc. Il y a des gens qui s'engagent. Mais à côté de ça, l'essentiel de la consommation de masse aujourd'hui, par exemple de la mode, qui est un des domaines les plus polluants, mais c'est les jeunes.
Donc il y a un côté assez paradoxal en fait.
Tout à fait. Et bon, je crois qu'après, on doit tous aussi balayer devant sa porte, hein. Donc voilà, je pense que l'histoire, elle est collective. L'information, elle doit être diffusée à peu près à tous les niveaux, le mieux possible. Il faut aussi engager beaucoup de débats, beaucoup de discussions, je crois, beaucoup de dialogues, pour pas avoir des positions dogmatiques. Ces positions dogmatiques, ça marche pas, quoi. Donc partir des faits, de la vie des gens aussi. Enfin, je pense, nous, en tant que journalistes, pour que cette information puisse être comprise et que les gens s'en emparent, quoi.
Et par exemple, dans nos régions, que ce soit Blois ou Tours, est-ce que vous, à l'ANR, vous avez tendance à mettre en lumière tout ce qui touche à l'écologie ou est-ce que d'autres informations passent en priorité?
Alors les choses n'ont pas, je sais pas trop bien répondre à cette question. J'ai l'impression quand même que on traite les questions d'environnement et d'écologie déjà depuis longtemps dans nos colonnes à la Nouvelle République. Il y a eu une époque où on avait des pages dédiées à l'environnement. C'était pas terrible finalement parce que c'était quelque chose d'assez formaté et puis c'était un peu rigide. C'était seulement une fois par semaine, quoi. Aujourd'hui, je pense que comme il me semble que c'est vraiment un enjeu majeur, j'ai l'impression qu'on commence à le retrouver un peu dans toutes les pages et dans toutes les rubriques. Quand on parle de politique, on parle de l'environnement. Quand on parle d'économie, on parle par exemple à Blois. Alors à Tours, il y a sûrement des tas de débats de ce genre-là aussi que je connais moi. Mais à Blois, par exemple, il y a un gros débat autour de faut-il créer une deuxième sortie d'autoroute. Le débat, il est aussi bien économique qu'environnemental, agricole même aussi d'ailleurs. Donc voilà, je pense que de plus en plus, ces enjeux-là s'invitent, j'ai envie de dire, un petit peu dans toutes les rubriques.
Très bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le développement durable est un luxe dans le sens où, par exemple, le bio, c'est encore cher, manger local, c'est encore cher? Est-ce que vous pensez que c'est assez accessible à tout le monde, pardon?
Alors, financièrement, j'ai envie de dire, c'est accessible quand même au plus grand nombre quand on habite dans des régions comme les nôtres, c'est-à-dire effectivement la Touraine, le Val-de-Loire. On est proche de la campagne et si on cherche un petit peu, si on se donne un petit peu la peine, on peut trouver sur des marchés, dans des associations type les AMAP, etc., directement des producteurs, trouver le moyen d'acheter des choses en gros et de se les partager. Nous, on fait ça, par exemple, entre collègues, on va acheter des 2000 moutons, par exemple, voilà, et directement aux producteurs. Et là, effectivement, enfin, je veux dire, franchement, c'est très accessible. C'est très accessible financièrement par rapport à la qualité du produit aussi qu'on a. Par contre, effectivement, les gens qui vivent dans des grandes banlieues, Paris ou des très grandes villes qui sont vraiment éloignées de tout ça, pour eux, effectivement, c'est plus difficile. Et le bio, c'est du bio. S'il est de qualité, il est très cher. Et sinon, c'est du bio de grande surface qui n'est pas très intéressant, qui est plus cher de toute façon aussi parce que, en plus, les grandes surfaces en profitent pour augmenter leur marge. Et effectivement, là, ça pose un problème. Il y a des choses à développer, quoi.
D'accord, oui, vous pensez que ça dépend vraiment de la situation de chacun.
Je crois que ça manque de. Après, il n'y a pas que le bio, hein. Donc, le bio en France, en plus, c'est pour l'instant une production assez minime, hein. Donc, mais déjà, ne serait-ce que commencer par savoir ce qu'on mange, par acheter des produits qui ne sont pas des produits transformés, etc., etc. Je pense que c'est plus une démarche qu'une question de moyens financiers, quoi. Mais cette démarche, ça demande aussi de la formation. Et puis, encore une fois, quand on est dans des grandes banlieues très urbanisées, etc., qu'on n'a pas du tout de contact avec la campagne, avec le monde rural, avec la manière dont on fait pousser des légumes, quoi, j'ai envie de dire, et ben c'est plus compliqué, je pense. Hein.
Très bien. Est-ce que, concernant les informations en général, vous pensez qu'une information, par exemple, négative, une information un peu choc, va provoquer un déclic ou au contraire, il faudrait favoriser les petites initiatives, par exemple, près de chez nous, pour faire naître, pourquoi pas, un déclic chez certains?
En fait, il y a un peu les deux, quoi. Il y a un peu les trop d'informations choc négatives, ça peut avoir des effets inverses. Ça peut braquer les gens ou ça peut les désespérer aussi, hein. Et qu'ils se disent bon bah de toute façon c'est fichu, hein, on va dans le mur, hein, quoi ça sert, hein, de changer quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, ça peut arriver. Il y a des gens qui s'angoissent aussi, hein, beaucoup par rapport à tout ça. Alors je crois qu'il y a un mot pour décrire ça, c'est la solastalgie ou quelque chose comme ça. Ces gens qui paniquent, hein, finalement, ou qui dépriment. Donc oui, bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que sans faire de catastrophisme, c'est quand même important d'apporter aussi ces informations, même si elles font mal, même si elles sont difficiles à entendre, et surtout quand on sait qu'on est une partie de, on est surtout une partie du problème, quoi. Et puis après, on est aussi une partie de la solution, j'ai envie de dire, et valoriser les initiatives locales, ça, c'est notre boulot de journaliste de local, justement, hein, de journaliste engagé sur les territoires. Parce que bah, nous, c'est pas le rapport du GIEC qui va, voilà, qui est notre source d'information. C'est notre source d'information, mais nous, ce qu'on va valoriser, c'est ce qui se fait sur nos territoires aussi, de positif, et qui va peut-être aussi permettre à des gens, eh bah, d'enclencher quelque chose, quoi.
Est-ce que vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez de l'urgence climatique? Est-ce que vous pensez qu'on tourne vers la fin du monde ou au contraire, vous êtes plutôt optimiste et avez remarqué peut-être des changements très récemment chez les populations?
Alors ça dépend. Ça dépend de quel pied je me lève le matin. Il y a certains matins où je suis plutôt optimiste et je me dis chouette, il y a des choses qui avancent, il y a des gens qui ont des initiatives vraiment sympas. On entend par exemple là dans les campagnes politiques municipales, et c'est important l'échelon municipal parce qu'en fait à l'échelon d'une ville on peut faire beaucoup pour faire changer les choses. Donc du coup c'est bien. Il y a des gens qui s'emparent de ça. Du coup je me dis chouette, c'est bien. Il y a quand même des choses qui avancent. Et puis, il y a des matins où il y a effectivement tout un tas d'informations qui vous tombent dessus, et concernant l'environnement, des projections où on voit que bah non, c'est plus 2,5 degrés, mais c'est plus 4 degrés, et encore c'est les scénarios optimistes, que la production de gaz à effet de serre continue à augmenter, que voilà, etc., etc. Et là, on se dit que bah on sait pas trop bien si on va réussir à s'en sortir, quoi.